flûte. Ce soir, la musique.
Cette émission est préparée par Aïssatou Ndoye, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. La prise de son est assurée ce soir par Jean-Frédéric et à la réalisation, c'est Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Mathieu Conquet, Joseph Gaune et Olivier Lame avec à notre programme un livre, Last Night, A DJ Saved My Life, sous-titre français Un siècle de musique aux platines de Bill Brewster et Frank Broughton, Throne, le dernier album de Booba et Finding Shore, un album de Tom Rogerson avec Brian Eno. Boris Pino est également avec nous, à mes côtés, pour nous lire vos commentaires, des commentaires que vous pouvez laisser comme tous les soirs sur Facebook ou sur Twitter, et toujours un cadeau à la fin, puisqu'on retrouvera le jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film « Si tu voyais son cœur » de Joan Chemla demain au cinéma, dont il sera d'ailleurs question vendredi prochain dans la dispute.
Ils sont longs les jours de pluie, quand je suis seul, quand je m'ennuie, que dans un rythme monotone, au fond de moi ton nom résonne. Il me reste cet air-là qui vient me parler de toi.
On ne pouvait pas ne pas évoquer France Gall, dont on a appris ce week-end le décès à l'âge de 70 ans, avec une chanson que personnellement j'aime beaucoup, même si elle n'est pas très représentative de sa carrière, puisqu'elle date de 65, c'est un de ses premiers albums. Alors qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Quel est votre France Gall? Quel air vous avez en vous, Joseph Gaune?
Je n'en ai pas beaucoup en tête, malheureusement. Vous êtes mal tombé. Je ne suis pas exactement le fan de France Gall, mais le problème... pour l'air qu'il y a dans ma tête, c'est que j'ai surtout dans la tête ces airs des années 80, pour lesquels je n'ai pas beaucoup de sympathie, malheureusement, parce que pour moi, ce sont un peu des si, dont j'arrive à me débarrasser avec beaucoup de mal. Après, la France Gall des années 60 peut m'intéresser, mais je la trouve beaucoup moins forte et intéressante que d'autres de la même époque, qu'une Françoise Hardy, par exemple. Je trouve beaucoup moins de poésie. Après, pour moi, c'est essentiellement ça a été une interprète. Gainsbourg à un moment, Michel Berger plus tard. Entre les deux, je vois pas grand-chose malheureusement. C'est une figure un peu pop. Ce qui m'étonne et ce qui est assez, pour le coup, assez intéressant, c'est la résonance et la répercussion de qu'à son décès. C'est-à-dire que d'un coup, tout le monde a l'air de se proclamer fan de France Gall, alors que plus personne n'en parlait depuis quand même pas mal de temps.
Et quand surtout, même pas mal de jeunes qui se revendiquent de France Gall, des jeunes chanteuses. Enfin, même dans une génération de trentenaires, j'ai l'impression que ça revient.
Moi j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt les chansons de Michel Berger qui ont un peu cet attrait-là. Ce qui m'étonne en fait, c'est la résonance au-delà de la France. C'est-à-dire, je vois des gens, des Américains surtout, poster des photos d'elle, etc. Je pense notamment aux gens de Sonic Youth, etc. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça dénote d'une espèce d'exotisme et de son côté un peu figure pop française un peu pour touristes à mon goût.
Mathieu Conquet.
Mais c'est probable que, contrairement à Johnny Hallyday, que les Américains ne connaissaient pas, France Gall incarne une femme française, au même titre que Françoise Hardy, sans doute, de fraîcheur, d'innocence. Moi, j'aime bien l'air que vous avez choisi. Je crois que les paroles étaient de Robert Gall et que c'était une musique d'Alain Goraguer, qui rappelle beaucoup les Girls Group, enfin, notamment un morceau des Exciters, He's Got the Power. Mais je trouve que France Gall, elle sera plus qu'une chanteuse vieillie. Il y a vraiment deux parties dans sa carrière, effectivement. Vous la résumé à Muse de Gainsbourg, puis Muse de Michel Berger. Je pense que, en tout cas, à travers France Gall, va apparaître déjà une forme de rythme. Charles Trenet avait apporté du swing à la chanson, et avec France Gall, il y aura beaucoup de soul, mais pas que avec elle, mais avec Michel Berger, avec Véronique Sanson, il y aura une forme de rythme, de pulsion qui va primer d'abord sur la mélodie, qui, moi, m'intéresse plus dans la chanson française. Et vous parliez, quand on écoutait le morceau, vous disiez, France Gall a toujours les mêmes mouvements de tête, et c'est pas vrai. Quand elle chantait les musiques yéyé, elle hochait la tête de droite à gauche, comme ça, ce qu'elle ne fera plus jamais. De même qu'elle ne mettra plus jamais de jupe après, elle ne mettra que des pantalons, une fois qu'elle, pour la période Michel Berger. Et dans les années 80, France Gall, la première image qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui marque la mesure du temps avec sa tête, ce qu'on pourrait appeler du headbanging. Et c'est vraiment une chanteuse du rythme. Je trouve que c'est vraiment une chanteuse du rythme. Et en plus, il se trouve que les sections rythmiques dans les morceaux comme Il jouait du piano debout étaient souvent mais fabuleuses derrière. Elle avait d'excellents bassistes, d'excellents batteurs. Moi, c'est plus ça que je retiendrai. Et puis en plus, avec une capacité, avec une voix très innocente, à chanter des choses parfois très douloureuses, très dures, qui moi me touchaient beaucoup dans un morceau comme Si l'on pouvait vraiment parler, qui est assez émouvant.
Oui, elle a une voix quand même, France Gall. Moi, j'aime pas particulièrement cette voix-là, mais je trouve que le timbre est extrêmement particulier. On l'a un peu tous dans la tête, Olivier Lame.
Oui, je veux pas gâcher un peu la fête, surtout que briser le cœur de Mathieu. Parce que, je peux juste raconter que c'est la première chanteuse dont j'étais fan quand j'avais 7 ans. À 7 ans et demi, c'était terminé, et depuis, j'y suis pas beaucoup revenu. J'ai été assez fasciné quand même de voir effectivement la caisse de résonance incroyable, avec la caisse de résonance incroyable que sont les réseaux sociaux, l'émotion que ça provoquait. Après, les histoires que j'ai vues beaucoup raconter, c'était moins des histoires de musique que des histoires personnelles. Mmh. Et ça m'a fait quand même me souvenir que dans les années 80, France Gall et quelques autres, c'était leur présence à la radio, à la télévision, c'était une violence à l'égard, je veux dire, en termes de... Quand on parle de variété, mais en l'occurrence, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et pour moi, finalement, France Gall... C'était France Gall pour rien, et donc je lui en veux, enfin pas forcément à elle, mais j'en veux à la variété française pour cette raison-là. Et j'ai du mal un petit peu à passer un peu ce stade pour revenir à voilà, j'ai du mal en fait dans le bruit à retrouver un peu l'artiste qui était quand même pas, voilà, contrairement à Françoise Hardy, qui est quand même une artiste qui a mené sa carrière, qui a choisi tous les gens avec qui elle a travaillé, etc. France Gall, c'est quand même quelque chose d'un peu plus, voilà, on va dire que c'est plus pop pour être poli.
Oui, surtout ce qui est assez assez étonnant, c'est que cette résonance, on a l'impression qu'elle tient vraiment de la nostalgie, c'est-à-dire c'est une nostalgie de quarantenaire, beaucoup plus que de trentenaire, ce que vous disiez, qui voit simplement leur jeunesse en train de mourir. Pour moi, c'est presque aussi bête que ça.
Et c'est vrai que c'est difficile d'avancer les arguments qui seraient dans l'ordre.
Oui, parce que très 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 basiquement, réécouter Babacar.
Ah, c'est épouvantable.
C'est horrible. C'est quand même horrible.
Oui, mais il y a pas Babacar.
Oui, mais les gens se souviennent de ça. Et même tous ces autres morceaux de cette période-là, dont les gens se souviennent et ont l'air de dire que c'était formidable, mais en fait non, c'était juste des morceaux horribles.
France Culture,
La Dispute.
On On referme ce petit temps consacré à France Gall pour ouvrir la dispute qui nous réunit ce soir avec un livre, Last Night DJ Saved My Life, sous titre Un siècle de musique aux platines, signé Bill Brewster et Frank Broughton, dont la première édition a paru en 1999, considérablement enrichie depuis et traduite récemment en français par Cyril Rivalon chez Castor Astral. Un ouvrage de référence sur le DJing, je me permets d'utiliser ce terme puisque c'est un terme qui n'est pas traduit par Cyril Rivalon dans le livre. Une bible même, selon certains critiques. De fait, c'est un livre très documenté, avec plusieurs entrées par période, par pays et par genre. Pas des gens compliqués, on n'a pas écrit un livre compliqué. On a bien glissé quelques théories socio-culturelles par-ci par-là et on se plaît à croire qu'on a fait du bon boulot pour rassembler les pièces du puzzle et les assembler. Mais ce que vous vous apprêtez à lire, ce sont avant tout des histoires grandioses de gens avec des égos démesurés qui expliquent quelle a été leur contribution au bouleversement de la musique. Notre but était d'écrire une biographie du personnage le plus important de la dance music, le disc jockey. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de l'évolution du métier de DJ. Elle explique comment le DJ est devenu la force motrice de la musique populaire. Pour la raconter, on a préféré se concentrer sur ses années les plus folles, quand il remuait vraiment dans les brancards. plutôt que sur son comportement récent, maintenant qu'il s'est calmé et qu'il est devenu respectable. On s'est beaucoup amusé à écrire ce livre. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, vous allez sûrement vous régaler. On est prêt à parier que vous allez apprendre des choses dans ce livre que vous ne saviez pas, et certaines vont peut-être même vous faire marrer. Voilà un extrait de la préface originale. Il y en a eu une autre depuis. Alors, est-ce que Olivier Lam, vous avez appris des choses et est-ce que vous vous êtes marré?
Oui, les deux. C'est un livre autour duquel j'ai tourné longtemps dans sa version originale, parce que j'ai un peu deux livres, on va dire, dans mon panthéon personnel, un qui s'appelle Turn the Beat Around de Peter Shapiro, qui a été traduit en français chez Alia, et un autre qui s'appelle Energy Flash de Simon Reynolds, qui n'est toujours pas traduit d'ailleurs. C'est un voilà, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dessus, mais c'est un très gros livre aussi, plutôt sur le côté anglais. Et je me disais que ce livre-là, finalement, racontait des histoires que je connaissais déjà, l'histoire du disco, jusqu'à l'acid house, évidemment le reggae, etc. Et je me trompais parce que c'est, je crois que je faisais pas assez confiance à ces deux auteurs, qui sont deux personnes assez, moi que j'aime beaucoup, des personnes assez truculentes en fait, dont un des deux, Bill Brewster, et un DJ que j'aime beaucoup. Et surtout, j'avais pas fait le rapprochement avec un site qu'ils ont fondé il y a quelques années qui s'appelait DJHistory.com, qui malheureusement, le site est défunt, c'est-à-dire qu'il est plus mis à jour, et qui est une bible avec un nombre d'interviews absolument hallucinant, et qui en fait m'a permis en fait de mieux comprendre, de mieux lire. Par exemple, il y a deux ans, on a appris la mort de David Mancuso, qui était le fondateur du Loft, un des premiers DJ modernes et fondateur aussi du nightclubbing à New York. Typiquement, je pour aller vérifier mes sources, je retourne sur DJHistory.com, et là j'ai trouvé le livre assez formidable, à la fois dans son ton, moi que j'aime énormément, qui est très anglais. D'ailleurs, ils sont plutôt meilleurs sur la partie anglaise que sur la partie américaine ou la partie française, par exemple. Mais j'ai trouvé que le livre tombait à pic parce qu'en fait, il permet de tisser, des liens entre des histoires qu'on a beaucoup entendu raconter ces dernières années dans des magazines, dans des revues, etc. Toujours de manière un peu démantibulée, sans vraiment savoir quelles étaient les sources. Et on se rend compte qu'en fait, que beaucoup de sources viennent de ce livre. Et là, on a vraiment un récit au long qui, évidemment, ce qui est paradoxal, c'est qu'il est très long et très complet, et en même temps, on peut pas s'empêcher de voir tout ce qui manque, ce qui prouve que c'est un très bon livre, parce que c'est un livre qui fait des choix. On y reviendra après, mais enfin, j'ai vraiment... J'ai fait la liste en fait de tout ce qu'il permet d'élucider comme problème autour de la figure, enfin comment dire, comme problématique autour de la figure qui est toujours problématique du DJ. En gros, qu'est-ce qu'un DJ en fait, qui est une question à laquelle finalement il est assez difficile de répondre, parce que c'est à la fois un collectionneur, un passeur, un organisateur de soirées, un inventeur de genre, un influenceur. Enfin, c'est assez c'est un personnage central de la pop musique au XXe siècle. Mais toujours par des anecdotes, par des histoires, sans jamais verser dans la théorie. C'est pour ça que c'est un livre, je pense, assez indispensable.
Mathieu Conquet, peut-être pour qu'on rentre un peu dans le vif et dans la matière, parce que c'est en effet énorme, peut-être un personnage ou peut-être même un genre, qui vous a particulièrement intéressé dans le livre.
Moi, je m'intéresserais plutôt à l'aspect, l'aspect français, puisque ce qui m'a un peu agacé, moi, au début du livre, mais il le rappelle très honnêtement dans la préface, c'est une histoire qui va être d'abord anglo-saxonne, ou en tout cas américaine, puisque l'italo-disco, la techno-allemande et Ibiza n'étaient pas prévus, et la musique électronique française, ou en tout cas les prémices de ce qu'a été l'expérimentation des musiques électroniques en France, sont assez peu mentionnées. Mais bien sûr, il y a des rattrapages, puisque tout de même...
C'est pas l'histoire de la musique électronique, il faut le préciser quand même.
Voilà, bien sûr. Mais ils rappellent bien que le mot discothèque vient du français, ils évoquent les Azou, ils évoquent Régine, qui a été très importante pour l'histoire de ce qu'ont été les discothèques.
Eddie Barclay aussi.
Voilà, et évidemment. Mais moi, je trouve que tout ça est servi dans un style qui est souvent lourdingue, avec des témoignages qui sont vraiment formidables. Vraiment, il y a énormément d'anecdotes sur des gens qui sont des arnaqueurs, des truqueurs pas possibles. C'est très très drôle, mais ça mélange des platitudes comme le DJ et l'intermédiaire entre le public et la musique. Merci. Il y a des déclarations fracassantes.
Je suis sûr que c'est mieux d'un paragraphe beaucoup plus.
Le DJ est la quintessence de l'artiste postmoderne. Et bon, tout ça pour servir cette idée maîtresse.
Je suis un peu d'accord avec Mathieu.
On est d'accord, le DJ a fait progresser la musique. Ça, c'est indiscutable à la lecture de toutes ces histoires qui sont rapportées. Mais ça l'est vraiment plus, je trouve, dans la manière de le faire, en mélangeant, par exemple, assez confusément la notion, mais vous le disiez, Olivier, la question de qu'est-ce que c'est que le DJ. Et je trouve qu'il y a une confusion assez forte qui est faite entre les DJ de radio, les premiers DJ de radio qui vont passer passer des titres et les DJ qui vont mixer des titres qui avec deux morceaux vous en créez un troisième ou même une infinité puisque maintenant vous pouvez remixer en direct les morceaux en créant plusieurs boucles successives. Il y a une confusion qui est entretenue là-dessus avec saupoudrée de citations de Marshall McLuhan par petits bouts tronqués. Je trouve que ça fait un peu sociologie de comptoir appliquée à la musique avec des raccourcis.
C'est ce qu'ils revendiquent en même temps, ils le disent dans la préface. Nous, on vient pas. Mais
ceci dit, moi, enfin, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que la confusion, elle est pas faite parce que précisément, ils expliquent bien que finalement, passer des disques, même mettre des silences entre les morceaux, ce qui a été fait jusque dans les années, à la fin des années 70 dans certains endroits, et les sélectionner ou les mélanger et éventuellement les enchaîner au tempo, en faisant du beat matching, finalement, ce n'est pas si éloigné et les deux choses sont intrinsèquement liées puisque il y a l'épisode très important de la Northern Soul en Angleterre qui est quand même quelque chose qui est très méconnu en France, qui est ce moment en fait où en gros le purisme est né et où finalement on pouvait aller dans une boîte de nuit pour écouter un morceau parce que le disque était tellement rare qu'il y avait un seul DJ en Angleterre qui l'avait et que pour aller l'écouter fallait aller tous les samedis dans une boîte et pas dans une autre. Et moi je trouve que c'est en racontant cette histoire là en fait qu'on comprend que finalement mixer, enchaîner, oui, c'est évidemment fondamental. Il revient énormément sur la technique, sur la naissance de la technique dans le hip-hop, etc. Mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important.
Joseph Gosne.
Oui, je suis assez d'accord avec Olivier sur le fait qu'ils mettent vraiment l'accent sur cette idée que le DJ est d'abord sans doute quelqu'un qui a un goût pour la musique, un certain goût, qui sait choisir sa musique et qui la sélectionne et qui aussi sait la faire passer. Il y a par exemple un moment, une anecdote où il raconte... je crois que c'est à Ibiza ou je ne sais plus où il y a un DJ qui joue un morceau de Cure qui n'aurait strictement rien à faire comme ça là théoriquement, mais parce que ils ont très peu de disques, ils savent les sélectionner, ils savent les jouer, ils savent faire passer les choses et c'est dans la construction du moment que se crée cette figure. Moi, pour revenir au livre pour en parler, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, enfin, d'une part, c'est vraiment un classique maintenant de cette littérature-là, et par ailleurs, je trouve qu'il donne beaucoup d'informations et qu'il promène bien dans toute la dans les différents genres, dans les différentes régions et territoires. Il a peut-être, mais je crois qu'on on le disait un peu à demi-mot tout à l'heure, il a un style extrêmement anglais, c'est-à-dire que les gens qui l'ont, les deux auteurs viennent quand même de la presse anglaise et d'une certaine période aussi de la presse anglaise. Il y a les années 90 où le ton était très très corrélé avec ce qu'ils vivaient eux-mêmes dans la nuit, donc il y a quelque chose d'assez fort et qui est très rapide et qui peut parfois paraître un peu caricatural avec le recul, mais qui moi me plaît bien. Peut-être que la traduction ne le rend pas toujours très très bien. Donc ça c'est peut-être un bémol, mais je crois qu'il faut surtout remettre ce livre dans un peu dans l'historiographie de ce genre-là, en tout cas de tout ce qui a été fait et écrit sur la dance music. Quand ce livre-là sort en 1999, il y a rien. Il y a vraiment rien sur ces histoires-là. Il y a des articles dans des magazines, des articles dans The Face, dans le NME, dans quelques magazines français. Je parlais récemment avec un ami qui me disait qu'il tenait un numéro de Rock and Folk spécial dance music pour une sorte de bible, parce que effectivement il y avait des choses qu'on voilà. Aujourd'hui, ça paraît un peu désuet, mais effectivement, ce livre-là sort en 99 et il cristallise quelque chose. Et pour ça, c'est un livre qui est vraiment important. Je trouve que le fait de mettre l'accent à ce moment-là sur le DJ et de dire que c'est une sorte de héros, de figure postmoderne, c'est totalement dans cette époque-là. Parce que c'est l'époque où tout le monde disait, soit les Anglais, etc. Il y avait une sorte de mix entre les journalistes, certains sociologues, etc., qui s'intéressaient à tout ça. Et les rares livres qu'il y a eu sur la culture rave, par exemple, qui sont sortis à ce moment, sont effectivement des livres de sociologie et qui pointent tous vers cette idée qu'il y a quelque chose de postmoderne qui se passe, c'est-à-dire qu'on est tout à fait conscient de ce qu'on joue, mais on utilise tout ça, toutes ces références, pour faire autre chose, pour faire du collage, et notamment, c'est parce que le DJing, c'est aussi une forme de collage. Moi, ce que j'ai trouvé assez passionnant, c'est qu'au-delà des anecdotes et des figures qu'il met en avant, des figures qu'on a connues beaucoup depuis, comme ce DJ de Détroit, Electrifying Mojo, qui a été très instrumental dans la création de la techno, en tout cas dans cette culture-là, ou des gens de Alfredo à Ibiza, c'est des figures comme ça qui vous permettent de rentrer dans l'histoire. Mais je crois que surtout le livre parle des DJ, mais surtout des danseurs en fait, et de ce qui se passe, et du rapport entre le DJ et son public. Et ça a été hyper important de dire, ben voilà comment les gens ont dansé, comment ça a évolué, les passages par exemple sur l'Angleterre où ça parle de mauvais garçons et de jolies filles, ça c'est assez passionnant de comment ils décrivent ça, comment ils font passer cette histoire du reggae, du dub, comment ils montrent comment ça part ailleurs dans la culture anglaise et comment ça se transforme et que ça devient aussi autre chose, que ça nourrit toute la culture club anglaise. De ce point de vue-là, c'est vraiment passionnant. Après, il faut aussi faire le point sur ce qui a été écrit après ce livre-là. Et je crois qu'après, une fois que cette somme-là a été faite, parce que c'est vraiment une somme, les autres auteurs se sont emparés d'autres questions, notamment celles de ces figures-là comme des auteurs, et je pense notamment aux livres qui ne sont pas traduits en France, je crois, mais Olivier me corrigera peut-être, de Tim Lawrence, les livres sur Love and Death on the Dance Floor, etc. Où là, j'ai l'impression que des auteurs un peu tout petit peu plus proches de nous tentent de montrer que effectivement des DJ ou des gens qui étaient dans des soirées, etc., étaient aussi des auteurs à part entière.
Oui, il y a quelque chose. Moi, j'ai pas tout lu. J'ai lu une bonne partie du début, de très anecdotique, c'est-à-dire qu'il y a, vous disiez somme, c'est aussi une somme dans le sens d'accumulation d'anecdotes. J'ai un peu l'impression qu'il faut faire soi-même son propre travail un peu théorique ou d'analyse à partir de cette espèce de matière foisonnante qu'on nous donne à lire.
Mais il y a quand même des faits tout simples auxquels on n'a jamais pensé. La première fois que quelqu'un a dansé sur un disque, c'était pas sur un DJ, c'était sur la musique d'un jukebox. C'est des choses toutes bêtes, parce que à la même époque, il y a des gens qui essayaient d'organiser des soirées où on passait des disques. Évidemment, avoir deux platines, c'était impensable. Et les gens ne dansaient pas. C'était pour eux de danser sur un disque, c'était absolument impensable. Quand on y pense aujourd'hui, je trouve que c'est assez vertigineux. Moi, je suis très intéressé par la partie effectivement sur l'Angleterre, sur le baléarique, c'est-à-dire le moment où l'Angleterre est en train de préparer son deuxième Summer of Love à Ibiza et la naissance du son garage, en fait, ce que Simon Reynolds, ce journaliste, appelle le continuum garage, c'est qui en fait naît avec l'arrivée vraiment des premiers immigrés des Caraïbes, notamment jamaïcains, et c'est très intéressant de voir comment quasiment tous les sous-genres de la dance music anglaise ne sont pas nés en fait dans l'imagination d'un musicien ou d'un producteur, mais par des collectionneurs de disques, par des collectifs de DJ ou des DJ qui à un moment s'intéressaient à un genre de son dans des disques qu'ils possédaient déjà, et en organisant des soirées et avec le public, c'est-à-dire qu'une scène, c'est un DJ, c'est un label éventuellement, mais avant tout c'est un public, et c'est la rencontre entre un public et quelqu'un qui sélectionne des disques, éventuellement il y a un feedback qui se provoque, et en fait comment des genres naissent avant même que le moindre musicien n'ait enregistré un morceau. C'est pareil pour le disco, parce qu'en fait le disco aujourd'hui on sait que c'est, en gros, c'est le Philly Sound, mais il y avait un disco avant le disco, en vérité.
Un disco crade, un peu.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est l'anecdote où ils disent un DJ passe un disque qu'il ralentit, et une semaine plus tard, il y a 500 disques qui lui arrivent et qui sont eux-mêmes déjà enregistrés ralentis. Donc c'est ça qui fait la force.
Mathieu, un dernier mot.
On apprend beaucoup de choses, mais il y a, par exemple, vous parlez des premiers DJ. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de rappeler l'opposition qu'il y a eu dès les années 40 entre musiciens et DJ. Où il va très vite y avoir une guerre, puisque de fait, les musiciens se voient voler leur travail, puisqu'on n'a plus besoin d'eux pour faire danser dans les balles. Et par exemple, moi, je savais pas que Jimmy Savile, qui était le présentateur de Top of the Pops, avait été finalement, peut-être probablement, c'est leur thèse, le premier DJ anglais, et que sans doute la première soirée où on a payé pour danser, non pas sur un orchestre, mais devant un type qui passe des disques, c'était à Leeds en 1943. C'est assez passionnant de les voir raconter, par exemple, que l'apparition du twist va coïncider avec celle de la pilule et que ces deux libérations, les effets s'en ressentent encore. Et que, par exemple, il y a eu des lieux aussi importants que la scène à Soho, où les mods, où il y a un DJ, Guy Stephens, qui était très important, qui sera d'ailleurs plus tard le producteur des Clash, et qui va faire danser des gens qui viennent tous l'écouter, qui se trouvent être les Beatles, les Rolling Stones, Eric Clapton. Voilà, on comprend l'impact des DJ sur le reste de la musique dans un style. Voilà, une fois encore, j'ai ma réserve sur l'aspect sociologie un peu rapide.
Joseph, tout dernier mot.
C'est juste que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ne fait pas de barrière entre les genres. Ça parle d'à peu près tous les genres et il n'y a aucun moment du snobisme de ce côté-là, et ça, c'est assez fort.
Il y a des réserves à la fin sur l'EDM, l'Electronic Dance Music, et l'avenir.
Oui, mais parce qu'ils sont trop vieux.
Bon, on va essayer de parler de Booba aussi. Voilà pour ce qui est de ce livre. C'est vrai qu'on pourrait en parler très longtemps. Il y a énormément de choses à en dire. Last Night, DJ Saved My Life de Bill Brewster et Frank Broughton, paru en français chez Castor Astral dans une traduction de Cyril Rivalan. À suivre dans la dispute, donc, Booba et Tom Rogerson.
France Culture.
La dispute.
Nous sommes toujours au cœur de la dispute ce soir consacrée à la musique. Deuxième sujet qui nous réunit, le dernier album de Booba en solo, intitulé très modestement Trône, paru sous le label Capitol. C'est son 9e album solo, dont on écoute un titre, Nougat.
C'est pédé de monde et ne me questionne plus. J'ai trop baisé, beauté ne m'impressionne plus. J'envoie du gaz, y'a plus d'ONU. Dans le 16, dans la rue, j'suis le plus connu. Que des indigènes dans le BM. Que des string ficelles dans le DM. Pas de je t'aime, que des EDM. Les couronnes pleines d'OGM. J'baisse vétérans et les rookies. J'nique tous les naines et les rookies. Neuf de easy, de cocaïne is cooking. J'rends un footing avec Vladimir Poutine. T'embrouilles bien, attends, te soulève, hein. Tu puis de la chatte, on te fait braise, hein. J'crois j'peux arrêter le peur après ce couplet. J'avais lui ruiné ton chat dans le coupé. Gamo s'est pimpé, puis t'es modifié. Les vies sont pipées, marcherai momifié. Mais j'suis déhussé, fuck un pharaon. Puis t'es médusé, suce le macaron. J'n'ai plus besoin que des envies, hein. Le noir est méchant, le blanc est gentil, hein. J'repeins de blanc, tu d'argentu. Celui qui dit qu'il est meilleur, il a menti. La suite m'a dit pourquoi t'as fait ça. Unga, 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 unga. Caramel, moulin, le nougat. Voilà pourquoi madre les putas. Tous mes méfaits sont relatés. Tous ces négros sont frelatés. Elle est montée en chocolaté. J'y prépare la fée comme athée. Bonne nuit, tu vois. Biatch d'or. Kalashnikov sur le mirador. Trésor enterré, Arzigan chaud. Bateau pirate vient de rentrer au port. Sur la falaise, passe ma vie au bord. Doro sur capo, baise le minotaure. Mes deux OBA dans le billboard. Jack Sparrow, il est le bon. La suite m'a dit pourquoi t'as fait ça. Hunga, 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 hunga. Caramel, moulin, le nougat. Voilà pourquoi madre les putas. Tellement décu, j'ai pas besoin d'être beau. Elle me donnerait son cul même si j'étais gros. Le zère de nid qui s'est affaissé, oh. Vitesse lumière dans le GTO. J'suis dans politique dans tous les coins. J'ramène des joints pour le maire adjoint. Accident par Spanamera loin. Le game ne sait pas gagner au point. Elle m'a dit baise-moi comme un animal. Donc je n'ai pas embrassé la go. J'laisse carte au trésor si je finis mal. Pour nous par nous graver sous la peau. Ma carrière, le voilà, j'ai n'allé pas aller. À la main sur le gun, l'autre sur un implant, ma mère. Mon prof m'a dit tu finiras à Nanterre. Je ne voulais pas réussir de toute manière. De j'entends bien de sortir du zoo. Flic alcoolo dans le Berlin, go. Chéri coco, j'ai pris la GoPro. Le cul sur Ocam, ça clique à go, go. Ensuite on fait comme les Kardashians. Toi mon très chat, on fait plein d'argent. Zéro chico, j'ai pris de l'Afghan. Ton Uber et la pute, qu'est-ce que t'attends. La suite m'a dit pourquoi t'as fait ça. Hunga, 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 hunga. Caramel, moulin, le nougat. Voilà pourquoi madre les putas.
Fait bien partie du paysage maintenant. Booba, on le connaît depuis longtemps, c'est presque un vieux rappeur. Mathieu Conquet sur Booba.
Si t'enlèves Eli Yaffa, c'est le vrai nom de Booba, t'enlèves un roi. Ça, c'est les derniers mots du premier morceau. C'est pas celui que vous avez choisi, mais je reste sur ces derniers mots et puis sur le titre de l'album qui est celui de Trône. C'est un peu le trône de fer que celui de Booba parce qu'il est très convoité, peut-être vacillant. N'empêche que je crois que l'album est toujours numéro un des ventes. Pour l'instant, et d'ailleurs les ventes de disques en ce moment sont dominées par le rap, puisque dans les 10 premières ventes, ces 7 disques sont qualifiés de urbains. Booba, il laisse un peu planer un doute sur sa volonté de continuer à occuper le trône, puisque d'un côté il dit dans le premier morceau vouloir arrêter le rap qui ne lui rapporterait plus assez d'argent, et puis un peu plus tard, il avoue quand même j'espère régner aussi longtemps qu'Abdelaziz Bouteflika, ce qui fera sourire les Algériens. J'ai foi en peu, mais pas en rien. Et Booba, ce que je trouve assez remarquable, c'est que alors que la mode est plutôt aux influences caribéennes en ce moment dans le rap, Booba est revenu vers quelque chose de plus. Alors on l'entendait pas beaucoup dans ce titre-là, mais c'est plus manifeste dans le reste de l'album, à des productions qui évoquent par sonorité, notamment à cause de la kora de Sidiki Diabaté, qui évoque beaucoup l'Afrique de l'Ouest, et notamment le Mali. Donc c'est plutôt ça qui m'a plu. Ensuite, il y a la misogynie évidente du morceau que vous venez d'entendre. Hein. Comme par hasard, c'est la juge et pas le juge. Et forcément, il y a une forme de façon de considérer que la justice s'attaquerait à Booba par racisme et que Booba ne ferait les choses que parce qu'il serait mu par le désir de l'argent. Donc là, il y a quelque chose de très cynique, une sorte d'abîme cynique qui pourrait faire déprimer. Mais d'un autre côté, ça c'est vraiment si vous le prenez au premier degré, parce qu'il y a des choses qui sont hilarantes chez Booba. On est un peu entre le génie et la platitude quand il dit « La justice à deux vitesses, la Lamborghini en A6, Vénus de Milo, Anus de Jello, je veux tout ». Moi, c'est quand même quelqu'un, Booba, qui a une force du verbe qui est assez extraordinaire. C'est pas un virtuose du verbe du tout. Par exemple, il y a un morceau où il rappe avec Damso. Mmh. Damso, c'est quelqu'un qui est d'une virtuosité...
Qui est son poulain, qui est plus jeune et qui... Ouais.
Qui n'utilise pas l'autotune, d'ailleurs, ce qui les différencie beaucoup. Mais vraiment, Damso a une virtuosité dont Booba n'a pas besoin, parce que vraiment, Booba, lui, ne s'appuie que sur les mots. Je trouve que... Bon, je vous laisse poursuivre.
On y reviendra. Olivier Lam, sur Booba.
C'est un moment intéressant. C'est toujours... Et puis, c'est le sujet et le moment, c'est toujours un peu le même. Il faut continuer à asseoir une suprématie un peu contre nature. Il a plus de 40 ans. C'est quand même... On a l'impression que lui est presque étonné. Et du coup, le disque est pris quand même dans une tension, je trouve, vraiment passionnante. On le sent un peu hésitant aussi, un peu perdu entre plusieurs choses. Moi, je trouve que l'alternance entre le premier morceau, Centurion, que je trouve... vraiment mais à tomber super. Par terre, et le deuxième, le single là, j'ai oublié le titre, mais qui est Friday. Beaucoup plus faible, et voilà, Friday, qui est dans une veine un peu R&B, toute une nez sous influence aussi un peu ouest africaine. Il y a des morceaux un peu caribéens quand même, notamment il y a son ami là, Gato d'Abato, rappeur haïtien. On a l'impression qu'il choisit pas vraiment, et on a l'impression qu'il va être un peu sur tous les fronts. C'est la première fois qu'on sent aussi l'influence de on sent qu'il voit quelque chose arriver très frontalement, qui est en gros ce rap un peu déprimé, un peu dépressif, très chantant aussi, qui est incarné de manière plus évidente par PNL, et on le sent tout petit peu à la traîne sur ce genre là c'est normal, c'est pas son...
Oui, enfin, c'est pas celui qui est sur ce qu'il sait
voilà,
faire. Quoi,
voilà, et je le trouve bien meilleur sur le morceau qu'on vient d'écouter, où il est vraiment impérial, moins bon, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce que PNL notamment a amené, il y a une espèce de recrudescence de jargon, de codification, de noms propres, très mystérieux, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une recrudescence de ça aussi dans son flow et dans son écriture. Je suis vraiment bluffé par le fait qu'il se débarrasse des articles très souvent, comme s'il inventait une sorte de nouvelle grammaire qui n'appartient qu'à lui. Et je trouve qu'il y a des moments, c'est absolument sidérant. Évidemment, j'ai besoin d'aller faire un détour sur un site comme Genius
pour comprendre
un peu de quoi il parle et pour comprendre aussi les références.
Les explications sont parfois très très drôles.
J'aurais bien aimé un album un peu de rap hardcore, vraiment de début à la fin. Je pense que j'aurais vraiment pris mon pied un peu plus que là, c'est clair.
Joseph Gozn.
Je suis assez d'accord avec Olivier sur le côté melting pot d'un vocabulaire et d'une grammaire en train de se construire. À l'écoute du disque, j'ai l'impression d'entendre vraiment une vraie répercussion de choses que je peux entendre dans la rue avec des jeunes gens, plus ou moins jeunes d'ailleurs. Il y a une vraie concentration de mots et du vocabulaire d'aujourd'hui. Et ça, je trouve ça assez fort. Ensuite, j'étais assez séduit par les sonorités dont parlait Mathieu tout à l'heure, c'est des sonorités un peu orientales, d'Afrique, etc., qui sont assez captivantes comme ça, je m'attendais pas forcément. Et surtout, je suis très touché par l'immense mélancolie du disque. Pour moi, c'est vraiment très très mélancolique, c'est assez triste, on sent quelqu'un d'assez... qui a une charge, effectivement, alors qu'elle soit celle de garder sa place ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez mélancolique, et qui, moi, m'a pas mal tenu dans tout le disque, et surtout jusqu'à ce morceau qui s'appelle Petite Fille, qui est vers la fin. Et dans lequel il y a une citation quasiment de Renaud.
C'est évident, c'est un gagnant.
Avec toi.
Il y a quelque chose comme ça, et on se dit, tiens, c'est étonnant que ça soit passé comme ça, ce passage, et que finalement Booba symbolise aussi aujourd'hui peut-être ce qu'a pu symboliser à un moment Renaud dans la culture française. Et surtout ce qui est assez touchant, c'est que son disque, me signalait quelqu'un, un ami tout à l'heure, est sorti le jour de la mort de Johnny. Et il y a vraiment ça, c'est-à-dire il y a Booba, il y a cette espèce de stature qui est là depuis pas mal de temps, depuis une quinzaine d'années, Et finalement, le reste est en train de partir. Et on voit vraiment le vieux monde s'écrouler. Lui, être habité par la mélancolie, parce que comme le disait Olivier, il y a PNL, etc. Donc le son a besoin de se renouveler. Mais de bout en bout, je trouve que ce disque est plutôt une vraie réussite. Notamment dans sa production, j'aime beaucoup, effectivement, le piano, ses rythmes, etc. Ça navigue bien. C'est assez intense.
Pour autant, moi, j'avais l'impression que Booba, par rapport à d'autres, un peu d'une nouvelle génération, parlait d'Orelsan ici dans cette émission il y a peu de temps de son dernier disque, regarde justement pas du tout vers la variété mais reste un peu dans son sillon qui est un sillon anti-variété, plus vulgaire.
Oui, mais aujourd'hui enfin, ce qu'a été la variété quand elle vendait énormément, aujourd'hui c'est le rap qui fait ça et quand je parle de place, c'est vraiment une place symbolique. Je dis pas du tout qu'il est influencé, alors même si la citation de Renaud est évidente. Peut-être que c'est un morceau qui l'a marqué ou pas, mais il y a quelque chose comme ça dans le paysage qui fait que oui, c'est aussi important aujourd'hui qu'a pu l'être un Renaud ou d'autres pour d'autres genres.
Mathieu Conquet.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté roi sans divertissement, en tout cas un peu triste sur son trône. Il y a une mélancolie qui habite le disque avec un côté un petit peu en dents de scie aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il fasse album. Les morceaux se contredisent presque les uns à la suite des autres. Il y en a qui sont plutôt séduisants ou touchants comme Petite Fille où il évoque vraiment son rapport à sa petite fille qui est visiblement la seule chose dans laquelle il est foi et espoir. Mais sinon, il y a des morceaux beaucoup plus vides comme Magnifique ou vraiment assez peu de choses sont dites. Moi, ce que j'aime bien, finalement, c'est le flou qui est organisé par Booba, parce qu'on évidemment, il s'agit toujours de deviner à quel degré il faut prendre l'humour et puis surtout à qui Booba s'adresse. Est-ce que c'est à un ami? Est-ce que c'est à ses adversaires? Est-ce que c'est à un homme ou à une femme? Et il y a une multiplicité d'interprétations qui fait le régal de ceux qui l'écoutent. Et pour quelqu'un qui s'est donné le titre de Duc et qui choisit un album qui s'appelle Trône, il y a peut-être une béance, un trou à analyser chez Booba, corsaire d'une autre sphère. Je trouve la lumière quand tout est noir.
On va faire la psychanalyse de Booba ici. Olivier, un dernier mot, Olivier.
Non, oui, moi j'aime bien. Je trouve qu'on dirait plutôt un vieil anard, en fait, qui serait un peu attrapé par.
Voilà,
on dit de Duc, c'est un peu un anarcho-capitaliste, un truc un peu comme ça. Mais finalement, il nous montre quand même que ce côté. Voilà, hyperconsommation, valeur de l'argent, etc. Finalement, c'est pas grand-chose, en fait, dans son rap et dans sa littérature, j'ai envie de dire.
Voilà donc pour Booba, l'album s'appelle Trône et il a paru sous le label Capitol.
France Culture.
La dispute. Get the right.
Troisième sujet de cette dispute musique, le projet du pianiste et spécialiste de l'improvisation Tom Rogerson avec Brian Eno, ça s'appelle Finding Shore, il a paru sous le label Dead Oceans, et on commence par écouter le titre qui ouvre l'album ID of Order at Kyson Point.
Thank you.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute, Joseph Gosne?
On écoute Tom Rogerson et Brian Eno. du piano et on ne sait pas exactement quoi d'autre. Brian Eno avait sorti un disque un peu plus tôt l'année dernière. Celui-ci est arrivé vraiment tout à la fin de l'année, c'était un peu une surprise. Brian Eno était assez habitué des collaborations. On se souvient d'un disque avec Harold Budd qui était très très beau dans les années 80. Là, il collabore avec Tom Rogerson, qui est un jeune pianiste, comme vous le disiez, plutôt habitué de l'improvisation. La collaboration passe par l'intermédiaire d'un dispositif ou d'un système, si j'ai bien compris, dans lequel Brian Eno utilise un synthétiseur Moog assez rare, je crois, qui est posé sur le piano, qui déclenche des choses, je ne sais pas de quel ordre exactement. Mais en tout cas, il y a un dispositif Eno, comme il en a l'habitude. Et apparemment, l'enregistrement s'est fait en laissant Rogerson jouer, notamment sur un morceau, je crois, comme le morceau qui s'appelle I Can Loop, un des derniers. Rogerson joue pendant très longtemps et Eno, finalement, on n'en garde que quelques minutes, mais qui sont très très belles. Et on a vraiment cette sensation de choses fugitives qui passent, dont Eno a figé certaines choses, qui sont traitées, retraitées peut-être. Parfois, j'ai l'impression que parfois en l'écoutant, c'est assez étrange parce que c'est un disque qui est finalement assez ambiante. Quand je l'écoute et je le réécoute, il y a les choses ont des textures différentes à chaque fois et j'ai l'impression d'écouter des choses qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc parfois j'ai l'impression que le piano disparaît, qu'il laisse la place plutôt à des textures ou à des nappes, etc. Moi, ce que je préfère dans ce disque, c'est sa durée, c'est vraiment l'écouter sur la durée. Et plus il avance, et plus j'aime le laisser me comme ça m'hypnotiser. J'aime pas tellement le début, j'aime pas tellement le morceau en fait qu'on a écouté, parce que je trouve qu'il y a quasiment presque trop de notes en fait, que Rogerson joue un peu trop. Et j'aime bien quand le système d'Eno a l'air de le freiner un peu plus et qu'on est confronté à des miniatures, des choses comme ça qui ont l'air d'évoquer évidemment du Satie ou des choses comme ça, mais qui restent quand même très je sais pas, très très touchantes, très 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 volatiles. C'est presque, à mon sens, c'est presque des haïkus, c'est presque japonisant.
Voilà. Olivier Lam, vous qui l'avez choisi, ce premier morceau qu'on vient d'écouter.
Oui, je trouve très beau, moi, à l'inverse. Mais je comprends ce qu'il veut dire, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, faire un disque en laissant parler un autre musicien, Eno, il ne l'avait pas fait depuis très longtemps. Il ne l'avait pas fait depuis les années 70, quand il a fait deux disques absolument magnifiques avec Robert Fripp, le guitariste de King Crimson et fameux accompagnateur de David Bowie, où finalement il avait installé un système et il laissait Robert Fripp jouer et lui il se contentait en fait de mettre en boucle, d'organiser et de traiter le son. Et là on sent qu'il a beaucoup de plaisir aussi un peu à faire son monde s'effacer en fait. En réalité il est très présent. Oui. Et à l'inverse, Tom Rogerson, donc, qui est un guitariste assez jeune et très virtuose, un pianiste, pas du tout un guitariste, qui est très virtuose, très savant aussi. Et visiblement, l'idée de ce disque, c'était qu'il revienne en fait à une sorte d'improvisation un peu de comme il le faisait quand il était jeune, avant de savoir lire la musique en vérité. Et quand en fait on écoute autant qu'on joue. Et Eno a toujours été très intéressé par ce phénomène un peu de feedback, de boucle, où en gros on improvise en écoutant le résultat produit, le son et les notes, et en se laissant influencer par lui, ce qui est un peu la base un peu de l'ambiance. Donc le système est finalement assez simple, il est posé. Effectivement, il se contente, grâce à ce dispositif qui s'appelle le piano bar, voilà, qui est sorti par Moog dans les années 80, qui en gros permet en fait de doubler certaines notes par des sons qui sont produits par un autre instrument électronique. Du coup, là, il l'utilise sur des morceaux assez percussifs, c'est assez beau. Là, en gros, il y a un piano et tous les sons synthétiques, en fait, sont le piano qui est doublé par un son synthétique ou alors simplement traité. Et j'aime beaucoup l'espèce de halo que ça crée, de mystère, qui est assez étonnant à notre époque, un peu d'hyper-technologie. On sait qu'on peut faire n'importe quoi avec n'importe quel son. Et là, il arrive à prendre le son synthétique et en fait à l'enfermer complètement dans le jeu. Ça donne un disque assez paradoxal, mais que je trouve vraiment très beau. Effectivement, les moments les plus mystérieux où on n'arrive plus à distinguer le son et surtout à distinguer une mélodie, mais plutôt une sorte de... J'aurais presque aimé que le disque soit fait d'un seul long morceau,
C'est très bizarre, les fins de piste d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, Tom Rogerson raconte que Brian Eno a aussi imposé cette forme-là de la piste, c'est-à-dire qu'il l'a vraiment contraint dans le moule du morceau, alors que lui, il partait sur des très longues nappes.
Ça rappelle dans leur construction les propres albums d'Eno dans les années 80, des albums ambiantes avec des morceaux finalement assez courts, mais dont on se demandait effectivement, comme disait Olivier, comment ils étaient fabriqués. Et je me souviens d'avoir une discussion avec un groupe qui s'appelle Otecre, où eux disaient Music for Films de Brian Eno, mais comment est-ce que c'est fait? Et la question est là, et effectivement, comme disait Olivier, ça revient à ça, à ce mystère.
Mathieu Conquet.
Peut-être qu'ils ont joué au jeu des stratégies obliques. Vous savez, c'était un jeu de cartes qu'avait inventé Brian Eno et il y avait plein d'indications. Ça pouvait être des choses, des conseils à suivre dans la vie, mais peut-être aussi pour les musiciens. Moi, l'ouverture qu'on a entendue, c'est un morceau qui m'avait tout de suite séduit ou donné envie d'aller plus loin. En revanche, le deuxième titre, je trouvais que la mélodie un peu facile avec des envolées planantes. Je me suis dit qu'on allait aller du côté de quelqu'un comme Ludovico Einaudi et que ça n'allait plus me séduire du tout, et ça a failli me perdre, mais finalement après il y a vraiment tout un jeu de silence, de qualité de silence, de résonance, de texture qui vont devenir de plus en plus intéressants, et on voit vraiment une musique se mettre en place patiemment, s'emballer, puis se découdre. Alors c'est vrai qu'on aimerait que certains morceaux peut-être se poursuivent autrement, mais il s'en dégage une très belle atmosphère. Alors c'est pas vraiment un disque d'ambiance, parce qu'il y a quand même des morceaux qui ont une réelle structure. Moi, j'aime beaucoup vers la fin de l'album, il y a un morceau qui s'appelle Chain Home, qui je trouve une pièce de résistance, où il y a une sorte de calme cotonneux, c'est très sombre et en même temps naïf, et ça va devenir de plus en plus grinçant, presque dissonant. Et là il y a quelque chose dans la construction qui est dans une lente résolution qui est assez passionnant à suivre. Ensuite, est-ce que cette musique s'épuise au fil du temps et des écoutes, ou est-ce qu'elle se nourrit de ce que vous y mettez à chaque écoute? Il y a un espace d'imagination, je trouve, assez ouvert. Il y a une générosité dans la proposition, dans cette rencontre entre un jeune pianiste et un vieux producteur. Hein, Brian Eno, il aura 70 ans l'année prochaine. Il a travaillé avec David Bowie. Il a produit énormément de choses. On lui accorde d'avoir inventé la no wave et la musique ambiante. Rien que pour ça. Et je trouve que cette collaboration, alors c'est vrai qu'on entend presque plus Brian Eno que
Oui, c'est
que
ça.
Ce
en fait,
pianiste.
C'est quand même un album de Tom Rogerson avec Brian Eno. C'est comme ça qu'on le présente, en tout cas.
Et
on parle beaucoup de Brian Eno.
Moi, j'entends beaucoup Rogerson, en fait. Oui. Je l'entends vraiment. Je trouve
ça passe
présent.
Dans quoi, du coup, dans l'influence classique, un peu classique
dans le jeu, dans le piano, dans ce qu'on entend. C'est-à-dire que quand vous écoutez un disque de Brian Eno, vous n'entendez que Brian Eno. Vous reconnaissez ses textures, sa façon d'agencer les sons, les boucles qu'il met, alors que là, on sent vraiment la patte de quelqu'un d'autre, et je sens que Brian Eno est effectivement présent, mais comme le disait Olivier, il est là comme il l'était avec Fripp, c'est-à-dire dans la manipulation du son, mais il laisse quand même le son vivre. Et bon, moi j'aime bien ce disque, j'aime bien l'écouter, il y a, je trouve, une façon de l'écouter qui est de ne pas l'écouter dans l'ordre qui est proposé, mais de le mettre en random, si vous l'avez en CD ou sur un lecteur MP3, en random, ou alors de prendre au hasard un morceau, et ça se reconfigure, ça se reconstruit de manière plutôt assez joyeuse.
Mathieu, Olivier Lam.
Ils pourraient presque tous faire office d'ouverture. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'assez beau. Et effectivement, on pourrait très bien écouter dans le désordre. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est la transformation du piano qui a l'air d'un cymbale par morceau. À un moment, ça m'a fait penser à ce qu'avait essayé de proposer aussi Aphex Twin avec Drux, où il y avait ce piano. Ça m'a rappelé ces sonorités-là. On pense aussi un peu à Philip Glass, mais je pense que c'est vraiment le match de la rencontre. Je suis pas certain que Tom Rogerson seul m'aurait intéressé à ce point.
Olivier, là,
oui, non,
un dernier mot.
Pour rendre hommage à Rogerson, c'est un improvisateur quand même assez intéressant qui, effectivement, il est sur des harmonies quand même assez simples, mais il ne tombe jamais dans le sirupeux, ce qui est le cas de beaucoup de musiciens néoclassiques qui sont vantés un peu. Il y en a quelques-uns que je déteste particulièrement, je ne vais pas les citer ce soir, mais il y en a un qui sort en disque bientôt qui s'appelle Nils Fram. Voilà, je pense que Nils Fram ferait bien écouter ce disque, je pense que ça dégonflerait un peu quelques parties du corps.
Il y a beaucoup de retenue à la fois dans son jeu et dans ce qu'il nous fait, et c'est ça qui marche, quoi. C'est ça qui...
Finding Shore, un album de donc Tom Rogerson avec Brian Eno, je vais quand même continuer à le dire comme ça, il a paru sous le label Dead Ocean. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Grégoire Di Fiore, qui nous rappelle d'abord la question d'hier et nous en donne la réponse.
Quel artiste tapissier fut inspiré par la tapisserie de l'Apocalypse, chef-d'œuvre de l'art médiéval conservé à Angers? Et la réponse était Jean Lursa.
a gagné ce soir des invitations pour le film de Johan Chemla, Si tu voyais son cœur, qui sort demain. Quelle est la question?
Dans quel documentaire sans bande-son, Chantal Ackerman capte des lieux, des épisodes et des occupants d'un hôtel?
Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer ainsi que vos coordonnées postales à l'adresse suivante auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr, sur lequel il existe une page La Dispute où vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Aiguisez vos commentaires pour l'émission de demain, vous pouvez les poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant ou attendre le direct pour commenter via le compte Twitter Dispute FC avec le hashtag La Dispute. Demain à 19h, La Dispute sera consacrée aux arts plastiques. Nous serons en compagnie de Frédéric Bonnet, Stéphane Coréard et Florian Guettet. Il sera question de l'exposition Globe à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, François Ier et l'art des Pays-Bas, ça c'est au Louvre, et l'effet du hasard au 104 à Paris.